Vous êtes sur Europe 1, bon réveil à tous.
Europe 1, il est 7h.
Elles ont voulu revenir au camp pour aller chercher à manger et elles se sont rendues compte que les Kurdes brûlaient les tentes en fait.
Le témoignage Europe 1 ce matin d'une maman. Sa fille a fui le camp syrien dans lequel elle était détenue. Les Kurdes, selon elle, les ont poussés à partir.
Et sur fond d'offensive turque en Syrie, le match France-Turquie hier soir, un partout. Nouveau salut militaire des Turcs. Quelle signification accorder à ce geste? Provocation, patriotisme? On retrouvera notre envoyé spécial en Turquie.
Les sapeurs-pompiers professionnels dans la rue ce mardi, ils veulent être entendus.
Stop à la violence, stop aux carences. Et le problème, c'est qu'on nous demande d'être plombiers, serruriers et de faire des missions qui ne nous incombent pas.
Cacophonie au sein du gouvernement. La question du voile révèle les fractures dans l'exécutif. Et puis des maires, toujours dans l'attente, ils veulent qu'Emmanuel Macron précise ses intentions sur la compensation de la suppression de la taxe d'habitation.
Des déclarations d'amour, oui. Moi, je veux des preuves d'amour. On voudrait du concret, surtout, puis qu'on nous rassure pour l'avenir. Je demande à voir. Parce qu'il n'a pas fait de cadeau au maire.
Il est 7h01. Bon réveil à toutes et à tous.
Europe 1. Le journal, Marion Calais, Mathieu Béliard.
Et cette fois, pas de sifflet. La Marseillaise sans accroc hier soir pour le match entre la France et la Turquie, mais les tensions géopolitiques se sont tout de même invitées au Stade de France.
Oui, une banderole appelant à mettre un terme au massacre des Kurdes a été déployée en tribune en fin de match. Et puis il y a eu aussi ce nouveau salut militaire des joueurs turcs à l'égalisation, un partout. Ambiance et réaction devant ce match en Turquie, avec l'envoyé spécial d'Europe 1, Jean-Sébastien Soldaini.
Jusqu'à la 82e minute, seule l'épaisse fumée des narguilés trouble l'atmosphère. Les hymnes sont respectés, les joueurs français parfois applaudissent. Cette 82e minute, l'égalisation turque. 7 joueurs en rang qui fêtent leur but par un salut militaire, mais ils ne voient là rien de choquant.
Nos soldats se battent de l'autre côté de la frontière. Et pour leur montrer le soutien de tout le pays, les joueurs font le salut militaire. Et nous aussi, on l'a fait devant la télé.
Cette manière de célébrer un but n'est utilisée que lorsque l'armée turque mène une opération d'importance. Armet a bien du mal à expliquer qu'il n'y a là rien de militant.
La politique et le foot sont deux choses différentes. Ce salut de nos joueurs n'a rien de politique. C'est un salut nationaliste pour nos soldats. Les pays européens ne peuvent pas comprendre. Ça relève presque du privé pour nous.
Et visiblement, ce geste ne se limite pas au football. Le tout récent champion du monde de gymnastique turc a lui aussi fêté son titre hier avec le même salut militaire. Chan Murfa, Jean-Sébastien Soldaini, Europe 1.
Sur le terrain, les Syriens alliés des Kurdes ont pris position tout près de la frontière turque. Et face aux combats acharnés, les États-Unis ont changé de ton cette nuit avec des sanctions annoncées contre plusieurs ministères turcs.
Les États-Unis, par la voix de Donald Trump, qui ont accusé hier les Kurdes de relâcher volontairement les djihadistes pour forcer Washington à s'engager. La question est posée, mais en tout cas, cette maman l'assure sur la foi du récit de sa fille, détenue ces derniers mois dans un camp du nord de la Syrie. Si elle a fui son lieu de détention, c'est parce que les Kurdes sont intervenus.
Depuis l'offensive turque en Syrie, ma fille, quand elle pouvait me joindre, m'expliquait que les bombes tombaient très près des tentes et qu'elles allaient mourir si on ne faisait rien, si on ne les déplaçait pas. Et hier, elle m'envoie un message affolé me disant qu'elle devait partir avec son enfant. Les Kurdes leur ont demandé de sortir du camp. Et donc là, ma fille avec son bébé, d'autres femmes françaises se retrouvent dans le désert syrien, sans protection parce que les Kurdes les ont abandonnées, sans nourriture, sans eau, sans abri. Elles ont voulu revenir au camp pour aller chercher à manger et elles se sont rendues compte que les Kurdes brûlaient les tentes en fait. Il n'y avait plus possibilité de revenir. Donc nous, on craint pour sa vie parce qu'on n'a plus du tout de nouvelles d'elle. L'armée de Bachar remonte. Au nord, c'est l'armée turque qui bombarde. Elles sont au milieu des affrontements. Elles n'ont nulle part où aller. Donc je fais un appel à notre président Macron pour qu'il rapatrie tous ses enfants et ses femmes, pour qu'on comprenne un peu mieux ce qui s'est passé, qu'on ait des réponses à nos questions, parce que nous aussi on a beaucoup de questions.
Un témoignage recueilli pour Europe 1 par Lionel Gougelot.
Europe 1, il est 7h04.
Un gouvernement en ordre dispersé. L'affaire de la maman voilée prise à partie au Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté agite aujourd'hui comme révélatrice des clivages au sein de l'exécutif.
Avec deux positions affichées par les ministres ces derniers jours et au final une ligne pour le moins flou pour Europe 1, David Doucan.
C'est une cacophonie ministérielle aussi bruyante que le silence présidentiel est assourdissant. Jean-Michel Blanquer a dit le fond de sa pensée. Pour lui, le port du voile n'est pas souhaitable. Et ce, dans la société en général. Bruno Le Maire lui donne raison, Gérald Darmanin est d'accord. Mais Cédric O, ministre du numérique, est très proche d'Emmanuel Macron, ou Sibeth Ndiaye, ne voit pas du tout les choses ainsi. La porte-parole du gouvernement trouve au contraire qu'une maman voilée en sortie, c'est une occasion d'inclusion, d'intégration. En fait, chacun donne son avis, le clivage droite-gauche ressuscite, comme si le gouvernement n'avait pas de ligne. La faute à qui ? À celui dont on attend toujours le grand discours sur la laïcité et plus précisément sur la place de l'islam dans notre pays, j'ai nommé Emmanuel Macron. Repoussé maintes fois, on croyait cette prise de parole abandonnée. Eh bien, l'Élysée nous assure qu'elle viendra. Quand ? Pas tout de suite. La réflexion présidentielle chemine, nous dit-on au palais. Le problème, c'est que tant qu'on ne connaîtra pas la conviction du chef de l'État, la majorité continuera à étaler ses divisions au grand jour.
Décryptage signé David Doucan pour Europe 1.
7 mois après le début de leur mobilisation, ils vont manifester cet après-midi à Paris. Les pompiers dans la rue pour demander plus de moyens.
Bonjour Stéphane Place.
Bonjour Marion, bonjour à tous.
Vous êtes Gare Saint-Jean à Bordeaux pour Europe 1 où 500 de ces pompiers professionnels s'apprêtent à prendre la direction de la capitale.
Oui, en uniforme, parfois avec des baguettes de pain sous le bras pour le petit déjeuner prévu durant ces 2 heures de TGV. Ces pompiers arrivent de tout le département de la Gironde. L'intersyndicale à laquelle appartient Jean Billard a réservé des billets dans 4 trains différents, cap sur Paris, pour rappeler au ministre de l'Intérieur que les revendications de la profession sont sur la table depuis 7 mois.
7 mois, dont 6 où le ministre est resté sourd et muet. La principale revendication, c'est qu'il faut réorganiser le secours d'urgence. Les sapeurs-pompiers ne peuvent pas continuer à pallier le manque de services publics, le manque de médecins privés, le manque d'ambulances privées. Nous voulons être recentrés sur nos missions. On a déjà perdu 7 mois. Pour nous qui sommes au service du public, c'est très très douloureux de sentir ce mépris de la part du ministère.
Un ras-le-bol qu'exprime Nicolas, pompier depuis 20 ans. Il fait partie des 500 professionnels sur les 1800 soldats du feu environ que compte la Gironde, ayant décidé de faire le voyage ce matin.
Stop à la violence, stop aux carences, on en a marre. On appelle le 18 un peu trop facilement. Et le problème, c'est qu'on nous demande d'être plombiers, serruriers et de faire des missions qui ne nous incombent pas. Donc service public à ses limites. Ça fait 7 mois que les interventions continuent à augmenter, que les violences continuent à augmenter. Nos politiques ne bougent toujours pas.
Alors ici, dans le hall de la gare Saint-Jean, des voyageurs glissent un mot de soutien, d'encouragement à ces pompiers, leur proposent parfois un café. On est populaire, mais pas reconnu par l'État, glisse un manifestant en partance pour Paris.
Stéphane Place à Bordeaux pour Europe 1, merci. Un accident de manège hier soir à Firminy, dans la Loire. 2 jeunes femmes éjectées d'une attraction, l'une est morte, l'autre est gravement blessée. Des rafales de vent pourraient être à l'origine du drame. Le procès à partir d'aujourd'hui des agresseurs présumés de 4 policiers en 2016 à Viry. Châtillon, des policiers qui avaient été attaqués au cocktail Molotov.
Europe 1. Une promesse et encore beaucoup de questions. Comment la suppression de la taxe d'habitation sera-t-elle compensée ? Les maires veulent aujourd'hui des précisions. On en parle dans la suite du journal de 7h sur Europe 1.
Europe 1, il est 7h10. La suite du journal, Marion Calais, Mathieu Béliard.
La suppression de la taxe d'habitation, le budget 2020 l'entérine, mais les maires continuent de s'en inquiéter.
Et alors qu'Emmanuel Macron ouvrira dans un peu plus d'un mois le congrès des maires de France, ses élus attendent des précisions du chef de l'État. Vous l'avez constaté auprès de certains maires d'Auvergne-Rhône-Alpes, Jean-Luc Boujon.
Oh bah clairement, le président est attendu au tournant sur cette question par les maires, tout simplement parce que la taxe d'habitation, c'était une part essentielle du budget des communes, surtout les plus petites, en milieu rural. Du coup, Emmanuel Macron doit montrer qu'il est capable de tenir ses promesses et de compenser cette taxe à l'euro près. Car malgré les louanges adressées aux maires depuis plusieurs mois, eh bien le climat est toujours à la défiance, explique Martine Venturini, maire sans étiquette de Chaparayan, 3000 habitants en Isère.
Il y a un manque de confiance.
Quand Emmanuel Macron n'arrête pas de dire « les maires, vous êtes formidables », il n'arrête pas de vous faire des déclarations d'amour.
Oui, c'est ça, des déclarations d'amour, oui. Moi, je veux des preuves d'amour. On voudrait du concret, surtout, puis qu'on nous rassure pour l'avenir, sur les dotations, etc. Oui. Je demande à voir. Parce qu'il n'a pas fait de cadeau aux maires, hein. Loin de là, hein. Il les a beaucoup critiqués, et beaucoup jugés, surtout.
Voilà, le mépris pour les élus locaux affiché par le président au début de son quinquennat a laissé des traces encore aujourd'hui. Donc les maires veulent des actes, résume Robert de Courty, maire de Merlaignec, 300 habitants en Haute-Loire.
Compenser à l'euro près, ok, c'est bien une parole. Après, savoir comment ça va être compensé, on n'a aucune certitude, aucun chiffre qui est avancé.
Vous méfiez toujours des déclarations du gouvernement et du président de la République ?
On peut s'en méfier. Moi, je veux des actes. Pour l'instant, il n'y a aucune certitude, c'est vraiment des paroles.
Donc ce dossier de la taxe d'habitation, mobilisation. C'est clairement un test pour le président, devant les Français évidemment, mais aussi devant les maires.
Le reportage de Jean-Luc Boujon pour Europe 1. Et puis la fin du feuilleton hier soir à Lyon, La République En Marche a investi Gérard Collomb pour la candidature à la métropole.
Il présentera aujourd'hui les premières pistes de son pacte productif pour le plein emploi. Et le ministre de l'économie devrait au passage faire un geste envers les entreprises.
Sur Europe 1, l'éclairage éco avec le Crédit du Nord, la banque pour ceux qui entreprennent au cœur des territoires. Une des 8 banques du groupe Crédit du Nord.
Bonjour Nicolas Barré.
Bonjour Mathieu.
L'éclairage éco, c'est avec vous tous les matins. Bruno Le Maire part à la charge contre les impôts qui pèsent sur la production des entreprises. Un sujet explosif.
Bah oui, parce que la France se distingue des autres pays européens par une fiscalité très lourde, pesant non pas seulement sur les bénéfices des entreprises, mais aussi sur leur production, sur leur chiffre d'affaires, sur les bâtiments, sur les usines. Ces impôts sont 7 fois plus élevés qu'en Allemagne, par exemple. Or, en taxant la production des entreprises, d'ailleurs que celles-ci gagnent de l'argent ou pas, la France se tire une balle dans le pied et encourage les délocalisations. Ces impôts qui plombent la production représentent 72 milliards d'euros. Alors, pourquoi le sujet est explosif ? Ben parce que le gros de ces impôts finance les collectivités locales. Donc, y toucher, c'est se mettre à dos les élus locaux.
Et c'est d'ailleurs pour ça qu'une concertation va être lancée. Avec les partenaires sociaux et les élus.
Voilà, le chantier va s'étaler sur les 6 prochains mois. Chantier crucial parce que tous les indicateurs pointent un décrochage de notre économie et notamment de l'industrie. Bercy relève par exemple qu'une seule entreprise française, en l'occurrence Dassault Systèmes, figure parmi les 15 premières entreprises européennes en matière de recherche et développement. Bref, il y a encore beaucoup d'efforts à faire pour rendre notre pays plus productif et surtout stopper ce risque de déclassement. Il n'est pas trop tard.
L'éclairage de Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos. Merci. C'est un épisode qui a marqué les consommateurs. La crise du lait, la chute des cours, la détresse des producteurs de cette crise est née une marque. C'est qui le patron ? Elle a été lancée il y a 3 ans, jour pour jour, promettant une vraie rémunération pour le producteur. Alors 3 ans après, le pari est-il réussi ? C'est l'enquête de la rédaction d'Europe 1 ce matin.
Bonjour Carole Ferry.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Où en est la marque aujourd'hui ?
Alors déjà, c'est plus seulement du lait, hein. C'est une 30aine de produits, beurre, chocolat, sardines en boîte, compote de pommes, bientôt des yaourts. C'est aussi 10 000 sociétaires, des consommateurs comme vous et moi. Il suffit de s'inscrire en ligne pour 1 euro et vous votez. Quel nouveau produit faut-il créer ? Avec quel cahier des charges ? La farine, bio ou pas bio ? Les sardines, pêche responsable ou non ? Ces consommateurs, et c'est ce qui fait vraiment la force du concept, ils prennent sur leur temps pour défendre leur projet. Ils rendent visite aux producteurs, ils vont même jusqu'à négocier directement avec la grande distribution. J'ai pu, chose très rare, assister à l'une de ces rencontres avec les responsables d'Auchan à Lille. Ils étaient 4 consommateurs, dont Sandrine, comptable, et Marine, consultante dans les transports.
J'ai pris une journée de congé parce que je trouve que c'est en effet important de pouvoir aller discuter avec les distributeurs pour comprendre pourquoi les produits pour lesquels nous on a voté et consommateurs ne sont pas dans les rayons.
Je ne suis pas la commerciale intraitable qui va... Je suis plus celle qui va parler avec son cœur et qui va dire « moi j'ai envie de sauver l'agriculteur, j'ai envie de faire des choses bien quand je vais consommer ».
Elles sont touchantes ces consommatrices qui s'impliquent auprès de cette marque « C'est qui le patron ?» C'est qui le patron en fait a du mal à faire rentrer ses produits dans les rayons hein.
Exactement. Ce qu'on trouve facilement, c'est le lait, les œufs, le beurre. C'est beaucoup plus dur pour les produits transformés, comme les pâtes. L'argument d'Auchan, c'est que le consommateur n'identifie pas un produit transformé à son producteur. Il se vend donc moins bien, explique le secrétaire général d'Auchan, Franz Gerhardt-Suber.
Le métier de commerçant, le métier de sélectionneur, concepteur d'une offre, il répond à une règle relativement simple. On ne met en rayon que les produits qui ont du sens et que les consommateurs veulent acheter.
Alors en réalité, il y a aussi une autre raison, c'est qu'Auchan a sa propre filière responsable et n'a donc pas forcément envie de concurrence. Conclusion pour la comptable Sandrine, il y a encore du pain sur la planche.
Et voilà pour les.
On a senti un peu une difficulté à... Oui, on adhère à votre démarche, mais on ne va pas forcément vous filer un coup de pouce. C'est un gros paquebot qui a une manière d'avancer. Et changer leurs habitudes, ben, c'est compliqué.
Alors d'autres ont plus facilement ouvert leurs portes, hein, le Carrefour, Leclerc, mais face aux réticences des autres, eh ben, c'est qu'il patron a décidé de mettre également ses produits en vente sur Internet.
Merci Carole Ferré, une diversification qui va se poursuivre. Enquête Europe 1 ce matin.
L'enquête du journal de 7h et Carole Ferré, retrouvée sur Europe 1.fr. Merci Marion Calais, un nouveau journal à 7h30 tout à l'heure avec Hélène Zélani.